Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Coronavirus, Covid-19 officiellement, le nom de l'épidémie est sur toutes les lèvres alors que la Chine admet connaître sa plus grave crise sanitaire depuis 1949 et que l'Italie a placé plusieurs villes du Nord en quarantaine. À Genève, à l'Organisation mondiale de la santé, on ne chôme pas, mais on admet désormais que, je cite, la fenêtre de tir pour éliminer la maladie se rétrécit. À Genève, Jérémy Lanche fait le point.
Seule véritable certitude à propos du Covid-19, il se transmet par les postillons. Les symptômes varient d'un mauvais rhume à une plus grave pneumonie. Parfois, les personnes contaminées peuvent aussi ne rien développer. C'est ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. Et c'est ce qui rend la lutte contre le virus encore plus compliquée. La mortalité se situe pour le moment autour des 2%. C'est plus que la grippe saisonnière, mais beaucoup moins que le SRAS, où on était plutôt autour des 10%. Mais même ce chiffre de 2% est encore sujet à caution, car des cas échappent sans doute aux autorités chinoises. Elles ont d'ailleurs changé plusieurs fois leur mode de calcul du nombre de malades. Une étude britannique estime même que 2/3 des cas sortis de Chine n'ont pas été détectés. Autre incertitude, si on sait que le virus a transité par un animal avant d'infecter l'homme, on ne sait pas lequel. On ne sait pas non plus pourquoi les enfants sont moins touchés. L'OMS se dit inquiète de voir apparaître de nouveaux foyers sans lien épidémiologique clair avec la Chine. Des études parallèles ont lieu pour comprendre si la nourriture pourrait jouer un rôle dans la transmission du Covid-19. Dans le doute, l'OMS recommande d'éviter la consommation de produits crus ou pas assez cuits.
They listen to the music on a telephone. They talk on the street on the telephone. They take photographs on the telephone. They orient themselves on the telephone.
Et l'impact sur l'économie est déjà là. Les prévisions de croissance à l'échelle mondiale et européenne sont à la baisse. Signe de l'inquiétude qui vient impacter la mondialisation. Le plus grand salon international de la téléphonie mobile qui devait se tenir en février en Espagne à Barcelone a tout simplement été annulé. Il devait pourtant rapporter 500 millions d'euros de bénéfices à la ville, mais le risque était trop grand. Reportage signé Élise Gazangel.
110 000 participants de plus de 200 pays, dont la Chine, devaient se rendre au salon et générer ainsi un bénéfice de 500 millions d'euros pour la ville. Résultat, les raisons de cette annulation font débat. Jordi Damien est professeur de l'EADA et PDG de l'entreprise de conseil technologique CTSK. Il assure que ce sont les pertes économiques faramineuses pour l'organisation en cas de contamination par le coronavirus lors de ce salon, qui ont motivé leur décision. L'organisation ne pourrait assumer le coût des compensations économiques reversées aux entreprises et participants si l'épidémie venait à se déclarer lors de cet événement.
Ellos no pueden decir nunca.
L'organisation ne pourra jamais dire que c'est pour un motif économique, parce que si elle le fait, les assurances diront « vous l'avez reconnu », donc elle transmettra toujours le message de l'alerte sanitaire et le cas de force majeure.
Selon l'expert, les assurances prendront en charge les indemnisations à payer aux 2800 entreprises ayant déjà engagé des frais pour se rendre à Barcelone, seulement si le cas de force majeure est avéré. Damia pense que les organisateurs s'appuieront sur l'Organisation mondiale de la santé, qui avait déclaré l'urgence publique de portée internationale quelques jours plus tôt pour justifier cette annulation. Mais au-delà de ce salon, il estime que la crise sanitaire du coronavirus devrait servir d'exemple, tant au niveau mondial que local, pour éviter les impacts négatifs sur l'économie.
Cette crise pourrait provoquer deux choses intéressantes. Une, c'est qu'elle pourrait changer le modèle de production du monde. En ce moment, 30% de la production des biens mondiaux se fait en Chine et cela pourrait renverser ce concept de production centralisée. Deux, il faudrait ne plus rendre dépendants les bénéfices des hôtels, restaurants, taxis, etc. d'un seul événement. Ce serait plus responsable.
Une dépendance que ressent surtout le secteur de la restauration et de l'hôtellerie à Barcelone ces jours-ci. Gemma Héretier est sous-directrice de l'hôtel Concordia de Barcelone. Ce 4 étoiles compte 88 chambres qui étaient toutes réservées pendant une semaine par l'organisation du salon. Elle affirme ne pas connaître encore quel impact concret cela aura sur son chiffre d'affaires, mais préfère se rassurer.
Je crois que ce serait pire si le coronavirus se déclarait ici à cause du salon et qu'ensuite Barcelone garde le stigmate qu'ici il y a le coronavirus. Cela porterait préjudice à la saison de cet été de Barcelone.
De leur côté, les taxis de la ville qui sont aussi touchés par cette nouvelle sont partagés. En moyenne, Juan Manuel Rodriguez gagne 25% de plus en février grâce à ce salon.
C'est une part importante dans ces mois de saison basse où on travaille peu. Et dans ce secteur qui travaille surtout en saison touristique, quand il y a un événement comme celui-là, ça se ressent.
Mais pour son collègue Valentin Esterian, à qui l'épidémie faisait peur, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Personnellement, je suis content qu'ils aient annulé parce qu'on avait peur de ce qu'il pourrait se passer. Ils devaient venir presque 150 000 personnes. Comment tu contrôles ça ?
Pour remédier à cette situation, la mairie de Barcelone a lancé la Opportunity Week cette semaine. Au programme, des réductions dans les hôtels, restaurants, centres culturels ou encore les transports pour compenser partiellement au moins les pertes économiques de ce salon annulé par peur de l'épidémie.
Et s'il y a bien un secteur qui est particulièrement impacté par cette crise sanitaire, c'est celui de l'automobile, et plus particulièrement celui de l'automobile allemande qui a fait le pari du marché chinois, mais qui est aussi très dépendant des composants fabriqués en Asie. Les explications depuis Berlin de Julien Méchaussi.
Plus les jours passent et plus l'industrie automobile allemande vacille, à l'image du groupe Volkswagen qui a joué à fond la carte du marché chinois ces dernières années, avec une réussite insolente puisque Volkswagen s'est hissé tout en haut du classement mondial des constructeurs. Sur les quelques 11 millions de véhicules vendus chaque année par le groupe allemand, plus de 40% est ainsi destiné au marché chinois. Si l'épidémie persiste, les conséquences pour ce secteur essentiel de l'économie allemande pourraient être catastrophiques, mais le coronavirus met également en danger la stratégie de la révolution électrique initiée par les constructeurs allemands. Volkswagen a ainsi investi plusieurs milliards d'euros en Allemagne pour transformer des chaînes de montage de moteurs à combustion en moteurs électriques. Problème, la grande majorité des pièces, dont les si importants composants des batteries, viennent de Chine. Et avec la quasi-mise à l'arrêt de la production chinoise, c'est toute cette stratégie qui est remise en question. Un avenir plus qu'incertain, dont se serait bien passé l'industrie automobile allemande, déjà mise à mal par le scandale du diesel, ainsi que la croissance du pays en berne pour la première fois depuis de longues années. Signe qui ne trompe pas, d'après une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie allemande, un sous-traitant automobile sur deux prévoit des suppressions de postes au cours des prochains mois.
In Paris, every night, all night, it's like this. Of course, not everybody goes to nightclubs. Many are addicted to it. Very few tourists know about it.
Et le tourisme est bien sûr aussi très impacté par les défections des Chinois, désormais interdits de séjour à l'étranger. En France, on serre les dents en attendant des jours meilleurs. L'Hexagone prévoit dans le meilleur des cas d'accueillir en 2020 un million de vacanciers chinois, soit plus de deux fois moins que l'année précédente. Les professionnels sont inquiets mais refusent le catastrophisme. Reportage à Paris d'Alexis Bédu.
Aux Galeries Lafayette, un des célèbres grands magasins parisiens, pas un touriste chinois dans les allées. D'habitude, ce sont eux qui animent les comptoirs. Ils représentent 20% de la clientèle. Ils sont aussi les touristes étrangers les plus dépensiers dans la capitale française. 1 850 $ par personne devant les Américains et les Allemands. Depuis le début de l'épidémie, le manque à gagner est donc très important. Dans cette célèbre maison française de haute couture, difficile d'aborder le sujet.
On n'a vraiment pas le droit. Il faut autorisation de CH. Vraiment, ça c'est un sujet très sensible.
C'est un sujet sensible,
oui, bien sûr. Okay.
Communiquer les mauvais chiffres n'est pas bon pour le commerce. Les Galeries Lafayette refusent de commenter cette désertion des touristes asiatiques. Chez Christian Dior, le vendeur accepte tout de même de répondre et il confirme, sans les Chinois à Paris, les affaires ne sont pas bonnes.
Carrément, oui, c'est un impact soit au niveau de trafic, soit au niveau aussi de chiffre d'affaires, sans donner des détails, quoi. Non, il n'y a plus de Chinois, il y a beaucoup moins de touristes et surtout que c'est une période où normalement on a le plus de Chinois juste après le jour de l'an chinois. Normalement on reçoit tellement de monde, mais là il n'y a personne. C'est vrai que si ça touche notre CIA, ça touche aussi notre maison et ça touche un peu nous en tant que personnel aussi.
Vous ennuyez pas ?
Si, un peu quand même, ouais, si. Mais bon, on arrive toujours, on a toujours des choses à faire.
Par ricochet, le coronavirus privera le tourisme français de croissance cette année. Jean-Pierre Masse est le président des entreprises du voyage, syndicat professionnel qui réunit 4400 sociétés du secteur du voyage en France.
Si on le mesure en poids économique, c'est 4 milliards d'euros la consommation des Chinois en France. Et là, ça représente 7% de la recette touristique globale de la France. C'est-à-dire que c'est extrêmement important. Je n'utiliserai pas le terme de catastrophe. D'abord parce qu'on ne connaît pas la durée de l'impact du coronavirus sur le tourisme. Vous savez, le tourisme, c'est très simple. Quand les connexions aériennes seront rétablies entre la France et la Chine, le flux touristique va se rétablir assez vite. Ceci dit, en termes de performance touristique de la France, on peut dire qu'on a perdu la première moitié de l'année 2020.
Et pour tard, par la chaise, bonjour. Ça va très bien, madame.
Dans cet hôtel du 11e arrondissement de Paris, plus de touristes chinois non plus. Wu Qin, le propriétaire de la chaîne Hypotel, explique qu'avec l'épidémie de coronavirus, il a perdu de la clientèle. Certains de ses établissements réservés aux groupes de vacanciers chinois sont même totalement vides.
Un hôtel, on avait jusqu'à 80% de notre clientèle des groupes chinois. Et j'ai un autre établissement dans le banlieue aussi. On a 50% des clients qui sont les groupes chinois. On les a perdus il y a un mois, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a une difficulté financière à courte durée. Mais bon, on rattrape avec les autres touristes. Il y a les touristes européens, les Coréens, ils sont encore là. On essaie de rattraper, mais c'est pénible parce qu'on est habitué à accueillir les groupes chinois qui sont très appréciés par les clients français, par les Français. Et ils ont beaucoup contribué au tourisme en France. Là, on les a perdus du jour au lendemain et ça nous a fait beaucoup de peine.
Dans l'un de ses hôtels en banlieue de Paris, Wu Qin accueille jusqu'à 200 touristes chinois par semaine. La France est une de leurs destinations européennes favorites, assure-t-il.
Et il faut savoir que quand un groupe chinois vient en Europe, ils font un tour européen. C'est en France, ils restent le plus. Hein. En France, ils restent 2 ou 3 jours. Et par exemple, les pays comme Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, les 3 pays pour un seul jour. Et nous, nous avons 2 ou 3 jours. Donc c'est quand même beaucoup.
Et même si Paris concentre 80% des touristes chinois dans l'Hexagone, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les régions françaises, explique Jean-Pierre Masse.
Les Chinois ont appris à voyager. Et quand ils reviennent, ils ne restent pas à Paris, ils vont en province, ils vont découvrir des expériences, ils découvrent l'œnologie, ils découvrent des coins un petit peu secrets de la province, de la montagne, etc., la campagne. Donc ils sont très curieux d'une France un petit peu plus profonde.
Après Paris, les régions viticoles sont les plus prisées par les touristes chinois. En Bourgogne-Franche-Comté, ils étaient 60 000 visiteurs en 2018. Et puis la ville de Colmar, dans l'est du pays, est également devenue un de leurs lieux de passage préférés, popularisé par une émission de télé réalité chinoise aux 2 milliards de téléspectateurs.
Pour notre chronique livre, nous partons en Ukraine. Donbass, c'est le titre du premier roman de Benoît Vitkin, correspondant du Monde en Russie et lauréat du prix Albert Londres en 2019 pour une série de reportages dans l'ex-URSS. Le livre nous emmène sur la ligne de front du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Un policier désabusé, l'assassinat d'un enfant, une intrigue qui nous permet aussi de mieux comprendre ce conflit armé, enlisé depuis 2014, mais toujours meurtrier. Benoît Vitkin est au micro de Léa-Lisa Westerhoff.
Dans votre polar, on suit un flic désabusé mais humain qui enquête sur le meurtre d'un enfant, un meurtre assez sordide. Pourquoi vous avez fait le choix, en tant que journaliste, finalement, de passer à la fiction ? Ça permet de parler à plus de gens d'un conflit globalement oublié ?
Oui, c'est vrai, tout simplement. Ça me permet, moi, de continuer à te raconter ce conflit que j'ai couvert pendant des années, donc je pense le connaître bien. Il m'a marqué. Et puis, plus généralement, c'est un conflit en Europe. Il est moche, c'est-à-dire que c'est pas le plus sauvage des conflits, mais bah c'est moche la guerre. Les gens vivent dans des conditions de pauvreté immense, aujourd'hui encore dans une insécurité immense. Donc oui, j'avais envie de continuer à parler de ce conflit.
Ça fait bientôt 6 ans que la guerre fait rage dans le Donbass, ces 2 provinces de l'est de l'Ukraine. Où est-ce qu'en est le conflit aujourd'hui ? À quoi est-ce qu'il ressemble ?
C'est un conflit paralysé, c'est-à-dire que le front ne bouge plus depuis déjà quelques années. Stratégiquement, militairement, il s'y passe rien de majeur. Ça n'empêche pas que la situation est violente sur la ligne de front, avec des combats qui sont principalement menés à l'artillerie et parfois aux fusils, aux snipers.
Ça veut dire beaucoup de pertes humaines ?
On est dans une phase qui est censée être plus calme après des négociations de paix. Et pour autant, au mois de janvier, il y a eu 12 morts du côté des soldats ukrainiens. On n'a pas forcément tous les chiffres, notamment en face du côté des rebelles séparatistes, ni parfois de toutes les morts civiles. Mais simplement en prenant cet indicateur-là, ça fait quand même 1 soldat tous les 3 jours. Donc ça montre que le niveau de violence est toujours bien réel.
On comptabilise 13 000 morts, je crois, et plus d'1 million déplacés. Dans votre roman, vous décrivez une région désolée, extrêmement détruite, comme coupé du monde, c'est ça la réalité du Donbass aujourd'hui, notamment pour la population civile ?
Désolé, c'est le cas de l'ensemble de cette région, et finalement, c'est cruel de le dire comme ça, mais dès avant la guerre. C'est une région qui a été, encore plus que d'autres, frappée par la chute de l'Union soviétique.
Vous parlez d'un conflit non pas gelé, mais au moins paralysé, bloqué. Quel est l'enjeu ? Pourquoi ça perdure ?
Chacun a des besoins différents, chacun des belligérants, chacune des parties. Le dur du dur, c'est la Russie, parce que la Russie a un pouvoir d'influence sur ce conflit très important. Un des drames de cette région, c'est que personne n'a tellement envie de s'en occuper et de la récupérer. Les Ukrainiens veulent la récupérer, c'est pour eux, c'est une question de souveraineté, de symbole. Politiquement, c'est majeur, mais ce ne sera pas une partie de plaisir, même si cette région revient dans le giron ukrainien. Les Russes n'ont pas du tout envie de l'annexer comme ils l'ont fait avec la Crimée, par exemple. Pour les Russes, c'est un outil de déstabilisation. Le Donbass est destiné, dans la vision russe, à rester une épine pour soit déstabiliser l'Ukraine dans le cadre d'un conflit qui resterait même de moyenne intensité, soit l'handicaper dans le cadre de ce qu'elle essaye d'obtenir dans ces fameux accords de Minsk, à savoir une région qui a son mot à dire dans la politique ukrainienne. En gros, de façon pour le faire simple, on se retrouverait avec des chefs de guerre détestés en Ukraine qui seraient quasiment au Parlement ukrainien à Kiev.
En mars 2016, le président de la Commission européenne déclare que l'Ukraine ne sera pas membre de l'Union européenne avant 20-25 ans. Est-ce qu'il y a une responsabilité de l'Europe dans ce conflit ?
La responsabilité première est russe. Il y a aussi des dynamiques locales qui se superposent là-dessus. Le fait que cette rébellion soit soutenue en 2014 par une part importante de la population, c'est important. Le fait qu'elle prenne dans cette région, c'est significatif qu'il y ait des dynamiques locales. Ensuite, la responsabilité première, c'est la Russie qui décide d'attiser les germes de ce conflit, puis qui va contribuer à le militariser. Côté européen ou occidental, il faut éventuellement remonter plus en arrière. C'est partiellement le discours russe, mais qui a une part de réalité, qui consiste à dire que l'Europe a voulu être trop exclusive dans sa relation avec l'Ukraine, que quand elle a proposé un accord d'association à l'Ukraine, cela impliquait que l'Ukraine soit obligée de couper une partie des liens, notamment commerciaux, qu'elle a avec la Russie. Or, les deux pays sont évidemment, et c'est encore le cas, très liés économiquement.
C'est une guerre en Europe, et pourtant l'Europe semble incapable de mettre fin à ce conflit. Pourquoi ?
Parce que l'Europe, comme sur d'autres sujets, a finalement pas tant que ça de leviers. Des leviers, ils pourraient exister, par exemple, si on allait imaginer que l'Europe fasse des embargos terribles sur le gaz russe, les Russes seraient à l'écoute. Mais bon, d'une part, l'Europe se pénaliserait beaucoup, ce qu'elle n'est pas prête à faire. Et tout ça pour une raison simple, on peut poser l'équation de façon très simple, c'est dans quelle mesure l'Ukraine est importante pour la France et pour l'Allemagne, par exemple, qui sont les parrains de ce processus de paix. Elle l'est un peu parce que c'est une menace, une déstabilisation sur le continent européen, que c'est un pays important, etc., etc. Mais elle est infiniment moins que pour les Russes, l'importance de l'Ukraine. Donc les moyens que les deux sont prêts à engager, forcément, on aura un fossé énorme.
Donbass de Benoît Vitkin est publié aux éditions Les Arènes. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grolot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.